Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grain à Moudre. Ce soir, un système de retraite universel serait-il forcément plus juste ? Comment adapter les retraites aux nouvelles formes de travail ? À quel âge et à quelles conditions prendre sa retraite ? Comment améliorer l'acquisition de droits pour les plus jeunes ? Voici quelques-unes des questions soumises aux internautes depuis la fin du mois de mai dans le cadre de la consultation publique sur la prochaine réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait de cette réforme un des grands marqueurs de son quinquennat. L'objectif, tel que formulé pendant la campagne présidentielle, est le suivant : créer un système universel dans lequel un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le montant où il a été versé et quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Le gouvernement compte faire aboutir cette réforme en 2019. Alors ce ne sera pas et de loin la première du nom, mais elle se distingue des précédentes par son angle d'attaque. Il ne s'agit plus de jouer sur la durée de cotisation ou l'âge de départ, mais de refonder le système pour le rendre, toujours selon les mots du chef de l'État, plus simple et plus juste. Pour y parvenir, il est question de généraliser la retraite par points. Tout le monde serait ainsi sur un même pied d'égalité. Mais est-ce vraiment si sûr ? Une telle réforme ne risque-t-elle pas de créer de nouvelles iniquités ? Alors, système de retraite universel, donc plus juste ? C'est la question que nous allons poser ce soir à deux invités, à commencer par vous, Antoine Bozio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous dirigez l'Institut des politiques publiques, l'IPP, qui a publié il y a quelques mois de cela une note, justement, sur cette question de la réforme des retraites. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS. Vous êtes présenté comme un des inspirateurs de la prochaine réforme, donc un des conseillers d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une façon de vous présenter qui vous convient ?
Donc c'est exact, j'ai été consulté par l'équipe de campagne présidentielle et donc je retrouve dans le projet une partie des propositions que j'avais pu faire, mais je ne suis pas un de ses conseillers, je ne suis pas membre de l'équipe.
Voilà, même si c'est un projet qui est en cours de construction, consultation publique, consultation des partenaires sociaux, on verra bien à quoi ressemblera le projet de loi. Il va falloir attendre encore quelques mois. Notre deuxième invité est en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Il s'agit de Jean-Marie Arribé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes, vous aussi, économiste, membre des économistes atterrés, coprésident du conseil scientifique d'Attaque. Alors, avant que d'examiner les avantages et les inconvénients que pourrait avoir une réforme du système tel que l'envisage le gouvernement, je voudrais qu'on dise un mot peut-être du diagnostic. En partant de celui établi justement par Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. Il disait notamment ceci, c'était dans ses intentions, nous mettrons fin aux injustices de notre système de retraite. Je voudrais d'abord savoir si l'un et l'autre, vous êtes d'accord pour dire que le système actuel comporte des injustices et si oui, lesquelles ? Jean-Marie Arribé.
Alors évidemment, notre système n'est pas parfait, mais il a eu historiquement, et il a encore, un immense avantage. C'est-à-dire qu'avant que les réformes précédentes aient été accomplies par les gouvernements précédents, le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport de la pension au dernier salaire, était à peu près le même que l'on soit dans le régime de base complété par les régimes complémentaires pour les salariés du privé ou que l'on soit dans les régimes publics. Et les injustices qui existent et qui se répercutent à la retraite étaient toutefois légèrement compensé par des mécanismes de solidarité qui étaient inhérents au système de retraite par annuité de cotisation. Dispositif de solidarité qui risquerait de disparaître justement dans ce système par points et pire par compte notionnel si la contributivité, c'est-à-dire le rapport est très exact, de la corrélation très très forte entre les cotisations que chacun verse et les pensions qu'il recevra plus tard, si cette contributivité était renforcée jusqu'à sa limite extrême.
Alors on va avoir l'occasion, Jean-Marie Arribé, de revenir sur cette retraite par points ou sur ce système des comptes notionnels. Mais pour rester encore un instant, peut-être même d'ailleurs un peu plus qu'un instant sur le diagnostic, je voudrais aussi avoir l'avis d'Antoine Bozio. Les injustices, elles sont finalement plutôt bien corrigées par le système actuel. C'est ce que nous dit Jean-Marie Arribé. Vous partagez, vous, ce point de vue ?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est le fait que le fait qu'on a une multiplicité de régimes avec des règles différentes laisse un soupçon d'injustice. On a une grande partie.
J'ai lu 42 régimes aujourd'hui.
Alors, il y a la façon dont
on n'est pas toujours le même chiffre.
Le nombre de régimes de base, les régimes complémentaires. Mais en gros, on a une multiplicité de régimes et chaque assuré a plusieurs régimes auxquels il a des droits et qui lui font que sa pension va correspondre à l'addition de plusieurs systèmes de retraite plusieurs régimes. Donc, ça, c'est le premier point parce que ce soupçon d'iniquité fait qu'on va souvent opposer les salariés du privé aux salariés du public, les derniers salaires dans le secteur privé, dans le secteur public face aux 25 meilleures années dans le secteur privé. Donc, ça,
voilà,
c'est le premier
secteur
point.
Secteur public, 6 derniers mois, secteur privé, 25 dernières années.
Le deuxième point, c'est en termes de constat sur l'iniquité, les inégalités sur le marché du travail sont corrigées en partie par le système de retraite, c'est-à-dire qu'on a moins d'inégalités dans notre système après, une fois en termes de pension. Mais simplement, c'est bien de comprendre quelle est la façon dont on arrive à réduire ces inégalités. Dans le système de retraite, ce sont ce qu'on appelle les dispositifs non contributifs. On donne des droits qui ne sont pas liés aux cotisations passées, aux salaires passés, qui permettent de corriger ces inégalités. Par contre, la formule contributive, la formule de base qui sert à calculer nos pensions, elle a un effet qui est en réalité ce qu'on appelle régressif. Elle n'est même pas purement contributive, elle va défavoriser les plus faibles salaires par rapport aux plus hauts salaires. Alors ça, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Si vous me permettez juste de donner un exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Si vous avez deux salariés qui ont travaillé pendant deux périodes de leur vie, il y a un salarié qui a commencé tôt à travailler, il a gagné 1000 euros sur la première période de sa vie, 2000 euros sur la deuxième période de sa vie. Il y a un autre salarié qui, lui, a fait des études, a eu typiquement un profil plutôt de cadre, et gagne 3000 euros sur la deuxième période de sa vie. Si on calcule, comme on le fait dans notre système actuel en annuité, en disant on va prendre les meilleurs salaires, ceux les derniers salaires, on va calculer 50% de ces derniers salaires. On va dire, celui qui a atteint 2000 euros, on va lui donner 1000, et celui qui a atteint 3000 euros, on va lui donner 1500. Et pourtant, les deux ont cotisé la même chose. Et c'est ça le mécanisme qui fait qu'on a un mécanisme qu'on appelle anti-redistributif au sein même de notre système contributif qui n'a pas vocation du coup à faire cet effet négatif.
Alors ça c'est vrai Jean-Marie Arribé que c'est un argument qu'on aborde assez rarement pour justement réfléchir à ce qu'est aujourd'hui notre système de retraite, système je le rappelle par répartition avec effectivement cette idée que finalement si on a une carrière courte mais où on a des augmentations assez régulières, on sera davantage privilégié au moment de toucher sa pension de retraite que si on a une carrière peut-être longue et où il y a assez peu d'évolution au niveau de son salaire.
J'ai bien précisé tout à l'heure que le système actuel n'était pas parfait et qu'il y avait des failles et des manques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure où un système par points comptabiliserait les cotisations sur l'ensemble de la carrière, eh bien les salariés, les salariés femmes qui connaissent les carrières les plus perturbées, les plus trouées en termes de continuité de travail, ou qui ont les salaires les plus faibles, eh bien seront encore plus pénalisées par ce système-là que dans le système actuel qui, bien je le répète, n'est pas parfait. Mais là, en mettant en relation très très étroite les cotisations comptabilisées sur l'ensemble de la carrière, 40, 42, 45 ans ou peut-être plus, eh bien là vous allez amplifier, lorsque vous parviendrez à la retraite, à l'âge de la retraite, vous allez amplifier les inégalités qui ont été constatées pendant la durée de travail. Et donc c'est ça le gros risque du système par points. Alors le principe est mis l'année dernière par M. Macron, effectivement, il semble de bon aloi et d'une parfaite justesse. Un euro de cotisation donne le même droit, mais un même droit amoindri. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le même droit, c'est une condition nécessaire, mais il n'est pas suffisante. Il faut indiquer quelle sera la hauteur de ce droit. Or, vous savez, on a déjà l'exemple des retraites complémentaires qui fonctionnent par points. Que se passe-t-il? Eh bien, dans ce système-là, que ce soit l'AGIRC pour les cadres ou l'ARCO pour les autres salariés, eh bien, vous avez une gestion par le biais de la valeur du point d'achat par le biais de la valeur du point qui est servi au moment de prendre sa retraite. Et donc, on joue sur ce mécanisme qui apparaît uniquement technique et non pas politique, c'est-à-dire qu'on va calculer le rapport entre la valeur du point servi et la valeur du point d'achat, et c'est ce rapport-là qui va servir de mécanisme d'ajustement. Alors, on peut parfaitement équilibrer les finances d'un système de retraite ainsi. Mais ça ne dit rien des choix sociaux et politiques qui seront inscrits en filigrane. Et
donc Jean-Marie Arribet, juste pour que la parole vraiment circule bien entre vous deux, vous inquiétez pas, on va revenir à Bordeaux dans un instant. Mais en tout cas, vous nous dites le système actuel n'est pas sans défaut, mais en tout cas, si on allait vers un système, si on généralisait le système par points, c'est vrai que c'est important d'ailleurs de dire qu'il existe déjà pour les régimes complémentaires, pour les retraites complémentaires, et qu'il s'agirait donc de le généraliser, ça aggraverait finalement les inégalités. Antoine Bozio.
Tout à fait.
Non, on va laisser répondre Antoine Bozio et je reviens vers vous, c'est promis.
Alors, je pense que le diagnostic que fait Jean-Marie Arribet est totalement erroné parce qu'il imagine que, en fait, la proposition de réforme consisterait à remplacer l'ensemble de notre système contributif et les éléments non contributifs par un seul système qui serait purement contributif. C'est à ma connaissance, mais lorsqu'on aura les précisions de la proposition du gouvernement, on pourra le visualiser. Mais d'une certaine façon, c'est pas du tout ce qui est l'esprit des propositions de réforme.
C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un système de retraite par points avec des éléments de correction des inégalités
bien sûr,
à côté.
On va garder tous les éléments non contributifs qui seront en fait des
points.
Par exemple, vous êtes en période de chômage, vous n'avez pas effectivement cotiser pour la retraite, mais on va vous donner des cotisations qui seront en fait inscrites, des points qui seront validés pour ces périodes de chômage, des périodes de maladie, des périodes, l'ensemble de les droits familiaux par exemple. On a des droits familiaux, le fait d'avoir élevé des enfants. Vous avez des éléments supplémentaires qui sont donnés. Il y aura des points pour reproduire ces droits familiaux. Donc tous les dispositifs non contributifs actuels peuvent être transcrits dans un système en points. Et donc simplement, on va corriger l'effet anti-redistributif de notre formule particulière contributive. On va dire, on a deux éléments dans notre système, quelque chose contributif, et là il va être très contributif, mais en étant très contributif, on va corriger son aspect inégalitaire. Donc au fait, si on garde exactement le même effet redistributif de nos mécanismes de solidarité, en plus d'un pilier contributif strictement contributif, on a une réforme qui en réalité est progressive, elle va bénéficier plus fortement aux plus faibles pensions, elle va bénéficier plus fortement aux femmes qu'aux hommes, et en réalité, c'est exactement le diagnostic inverse que fait Jean-Marie Arribet. Moi, je suis, au vu des simulations qu'on peut faire actuelles de ce type de réforme, c'est une réforme qui, en réalité, est une réforme sociale.
Jean-Marie Arribet, ce que nous dit Antoine Bozio, c'est qu'il n'est pas question de généraliser le système par points, j'ai envie d'ajouter, et d'oublier tous les éléments qui relèvent de la des correctifs, disons, des inégalités. Est-ce que avec un système, je ne sais pas s'il faut parler d'un système mixte, mais appelons-le comme ça, comme celui-là, est-ce que ça vous semblerait répondre à votre inquiétude par rapport au système par points?
Mon collègue Antoine Bozio oublie que M. Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de points gratuits attribués. Donc je ne vois pas comment le système qui est projeté par le gouvernement va réintroduire l'ensemble des mécanismes de redistribution et de solidarité qui existent aujourd'hui, puisqu'il a déjà annoncé aux organisations syndicales dans les rencontres préparatoires qu'il n'y aurait pas de points gratuits.
Et je reviens, points gratuits qui pourraient être attribués par rapport aux situations qu'a évoquées Antoine Bozio, c'est ça ?
Au titre de la non-contributivité.
On verra lorsque les annonces seront faites, mais
oui,
mes connaissances actuelles...
Excusez-moi, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Bon. Donc, on peut partir de l'exemple des retraites par points à l'heure actuelle. Le Conseil d'orientation des retraites a évalué quelle était l'ampleur des dispositifs de solidarité, donc de redistribution, à l'intérieur du système actuel. Dans les régimes de base, cette redistribution est évaluée autour de 23%. Donc, il y a 23% qui constituent le socle de redistribution à l'intérieur de notre système actuel. Dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco, vous savez à combien se monte, selon le corps, cet espace de redistribution, à 6,9%. Donc vous voyez bien qu'il est beaucoup plus compliqué, à l'intérieur d'un système dont le principe même est la stricte contributivité, d'y introduire des mécanismes de redistribution qui ne relèveront plus, si on comprend bien, qui ne relèveront plus d'ailleurs du dialogue social entre les groupes sociaux, mais qui relèveront directement de l'État.
Mais ce que je voudrais comprendre, Jean-Marie Arribet, oui. Est-ce que ce sont les effets de ce changement de système qui sont pour le pour vous le plus problématique, ou bien est-ce que c'est le principe en tant que tel, c'est-à-dire d'avoir un régime, un système universel? Quand on dit universel, on peut imaginer que ce sera un système plus équitable. Est-ce que vous dites non, les deux ne sont pas forcément liés?
Ben les deux ne sont pas forcément liés. Mais pour bien vraiment le comprendre, pourquoi ils ne sont pas liés, il faut s'interroger pourquoi on nous projette aujourd'hui une nouvelle réforme. Comme si les multiples réformes précédentes n'avaient pas suffi. Vous avez observé qu'on ne nous parle plus du vieillissement de la population. Vous vous souvenez que c'était le leitmotiv répété interminablement pour justifier les réformes précédentes. La population vieillit, on ne pourra plus payer les retraites, donc il faut modifier tous les paramètres. On n'en parle plus. La population ne vieillit-elle plus? L'espérance de vie n'augmenterait-elle plus? Qui justifie autrefois les réformes? Donc que se passe-t-il? Eh bien voici ce qui se passe. Et c'est inscrit noir sur blanc dans le rapport du COR de juin 2007 et c'est repris par les études d'experts auxquelles a participé mon collègue Antoine Bozio, ici présent. Les retraites aujourd'hui, les pensions représentent 14% du PIB. Or, vous savez que c'est jugé trop important par les gouvernements successifs et notamment par le nôtre actuel. Donc, comment faire pour baisser cette part des pensions? Et c'est là où on touche le paradoxe suivant qui est hallucinant. Eh bien, plus la croissance est forte, comme les pensions sont déconnectées des salaires qui, eux, suivent K1K la croissance, alors la part des pensions diminue dans le PIB. Et au contraire, moins la croissance est forte, la part des pensions dans le PIB augmente. Alors là, vous vous rendez compte de la catastrophe. Comment faire pour rétablir ce leitmotiv, pour imposer ce leitmotiv de la baisse des dépenses publiques et sociales? Eh bien, il ne faut plus toucher à l'âge de la retraite, il ne faut plus toucher à la durée de cotisation, il faut dire aux salariés et à la population que tout le monde sera libre de partir quand on veut à partir d'un système par points. Mais alors, justement, là le piège, parce que, je termine d'une phrase, on va évacuer du débat politique fondamental, du débat de société, on va évacuer ce qu'est une norme sociale en termes de partage du temps de vie entre le travail et puis le repos après la vie active. On va évacuer du débat social et politique, on va évacuer la durée du travail, donc le partage du travail, et on va évacuer le partage des richesses produites. Parce que il faut
votre phrase, il y a plein de virgules dans votre phrase, mais coup, elle est longue. Hein. Je voudrais vraiment qu'on entende à nouveau Antoine Bozio.
Voilà, mais il va parler, je ne m'en ai pas peur pour lui. Mais non. Ce qu'il écrit avec ses collègues, c'est la chose suivante, il faut déconnecter l'évolution des pensions de la situation économique.
Alors on va justement demander à Antoine Bozio si c'est bien ce qu'il écrit. Jean-Marie Herbier, non, vraiment, j'insiste, c'est vrai que vous êtes à distance, c'est toujours un petit peu plus compliqué de mener des débats, mais que pour que chacun quand même ait le temps aussi de s'exprimer et qu'on soit toujours dans un format de discussion. Vous avez dit beaucoup de choses, alors Antoine Bozio, à la fois sur finalement qu'est-ce qui motive cette nouvelle réforme? Est-ce que l'idée générique, au-delà de l'idée de rendre peut-être un système plus équitable, c'est pas d'abord finalement que les retraites, les pensions pèsent beaucoup moins à l'avenir qu'elles ne pèsent aujourd'hui par rapport au PIB, en disant aux gens finalement, débrouillez-vous, prenez votre retraite quand vous le souhaitez.
Donc non, je crois pas. Alors peut-être pour revenir quand même sur ce qu'a dit Jean-Marie Herbier, premier point, le fait de dire que s'il n'est pas possible dans un système à point d'avoir un système de solidarité, c'est complètement faux. On peut tout à fait les imaginer. C'est très facile, au contraire, et beaucoup plus facile dans le système actuel pour faire de la solidarité beaucoup plus efficace. On a plein d'exemples aujourd'hui dans notre système actuel où, par exemple, on donne des trimestres de cotisation pour des périodes de chômage, mais qui ne donnent pas de droits supplémentaires pour ces personnes-là parce que elles ont suffisamment de trimestres. Par contre, on va leur baisser dans la formule de calcul lors de leur pension à la retraite. Alors que dans un système à points, on peut très bien rajouter des points pour ces périodes de chômage. Donc, à mon sens, c'est exactement le contraire du diagnostic que pose Maria Ribet. C'est beaucoup plus efficace pour faire un dispositif redistributif.
Ça, c'est pour les mécanismes de solidarité. Est-ce que avec ce système-là, s'il est généralisé, les pensions de retraite pèseront moins qu'elles ne pèsent aujourd'hui?
Alors, que l'idée, au contraire, c'est aussi... moi, ce que je pense qui est fondamental et la raison pour laquelle on fait supplémentaire au-delà de l'équité qu'on souhaite arriver à une telle réforme structurelle, c'est que la façon dont et c'est là où j'espère que Jean-Marie Herbier serait d'accord, c'est-à-dire la façon dont les réformes paramétriques successives, depuis la réforme Balladur, ont essayé de juguler la question du vieillissement démographique, c'est-à-dire...
Les réformes paramétriques, on joue sur l'âge de départ, sur la durée de cotisation...
On joue sur l'âge de départ, mais le premier mécanisme, c'est en fait a été la désindexation des pensions. des indexations des pensions liquidées, des indexations des droits. Et ça, ça veut dire qu'en réalité, on essaye d'équilibrer notre système en faisant en sorte que les salaires et donc les cotisations augmentent plus vite que les droits des pensions et que finalement, si on arrive à avoir suffisamment de croissance, on va dévaloriser les pensions par rapport aux salaires et donc finalement arriver à équilibrer notre système. Ça, c'est quand même une très très grande fragilité de notre système. Ça veut dire que c'est la croissance qui nous permet d'équilibrer le système et selon les projections du corps, on a une grande incertitude finalement sur l'équilibre de long terme, sur les garanties en termes de taux de remplacement. Et ça, c'est vraiment lié à la façon dont on a géré la question du vieillissement démographique. Ce qui serait très important dans le nouveau système, c'est en fait de revenir sur cette question d'indexation pour avoir une indexation, ce qu'on appelle des salaires, des droits, qui soit vraiment basée sur une règle en fait, qui suive les salaires. Pourquoi ?
Parce les salaires et l'évolution démographique, hein, je crois, dans la...
Ben, c'est-à-dire que l'évolution démographique, c'est de dire, c'est la deuxième partie, la deuxième composante de l'équilibre. On veut aussi garantir l'équilibre de long terme de notre système. Et donc faire en sorte qu'on puisse ensuite décider collectivement et vraiment faire un choix politique du niveau qu'on consacre collectivement aux retraites, au lieu de dire, ah ben, on va vous donner des promesses, mais petit astérix, on ne peut pas les garantir, et puis on espère qu'avec suffisamment de désindexation, sans que ça se voit, on arrive à équilibrer le système.
Mais c'est bien donc une façon de donner un outil au futur gouvernement, de pouvoir jouer sur, par exemple, la valeur du point, si on est dans un système par point, et de s'adapter à la conjoncture, non ?
Sur quoi je plaide, c'est pas justement de faire les systèmes agir carco, où on peut faire évoluer la valeur du point, finalement,
d'année, je rappelle, c'est les retraites complémentaires,
d'année en année. Je pense qu'on devrait donner des garanties beaucoup plus fortes avec une valeur d'achat du point qui soit en fait fixée dans la loi et qui suive les salaires. Et qu'on puisse en fait pas jouer sur finalement la dévalorisation des droits. L'objectif, c'est vraiment de renforcer les droits acquis des salariés pour leur donner beaucoup plus de garanties.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Voilà, est-ce qu'un système de retraite universel serait forcément plus juste ? On en discute ce soir en compagnie de deux économistes, Antoine Bozio et Jean-Marie Haribé, qui est à Bordeaux dans les studios de France Bleu Gironde. On a évoqué le niveau des pensions, ce que cela pourrait vouloir dire si ce système est généralisé, aussi par rapport au poids que représenterait les pensions de retraite. Mais je voudrais revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Marie Haribé, et qui évidemment concerne tout le monde, c'est celui de l'âge du départ à la retraite. Si on a un système par points, alors je rappelle retraite par points, c'est-à-dire tout au long de sa carrière, on accumule des points et lors de son départ à la retraite, ces points sont convertis en pension. Qu'est-ce qui vous fait dire en fait que finalement les gens pourront partir quand ils veulent ? Quand on regarde les engagements du président de la République, il dit on va pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans, ça va rester 62 ans.
Mon collègue Antoine Bozio disait à l'instant que le système par points pouvait garantir l'avenir du niveau des pensions en fixant la valeur du point d'achat. Mais rien ne dit sur la valeur qui sera servie ensuite, c'est ça. Et les exemples...
Oui, mais là, vous ne répondez pas à mes questions. Moi, je vous parle de l'âge de départ.
J'y viens. Mais oui, parce que tout ça, c'est lié. Les exemples auxquels faisait référence mon collègue sont tout à fait intéressants. Il y a quelques années, donc c'était le système suédois qui était présenté comme la panacée et qui devait... Tenez-vous bien, qui devait nous mettre à l'abri des chocs démographiques et économiques. Patatras, la crise de 2007-2008 a fichu par terre le système suédois qui n'est pas plus simple que le nôtre actuel, qui est extrêmement complexe parce qu'il y a en plus un système par capitalisation qui s'ajoute au système de base. Bref, donc rien ne garantit dans ces systèmes-là que l'avenir du niveau des pensions soit assuré. Alors l'âge de départ, vous me dites, mais le président peut ne pas toucher à l'âge de départ qui vous donne droit de partir en cumulant tous vos points, mais ça n'enlève rien au fait que l'on va quand même comptabiliser le nombre de la quantité de points que vous aurez accumulés parce qu'ils seront calculés sur l'ensemble de votre carrière. Et c'est ça qui va amplifier les disparités à l'intérieur du salariat et de toute la population active qui existe aujourd'hui, qui va les amplifier au moment du passage à la retraite. C'est ça. Et
c'est-à-dire quoi, c'est une incitation à
à rester actif le plus longtemps possible pour accumuler le plus possible de points, c'est ça ?
Eh bien, évidemment. Évidemment, les personnes qui auront eu les carrières les plus fragiles, qui auront eu les travaux les plus pénibles et qui le plus souvent ont les salaires les plus faibles, et je pense particulièrement à certaines catégories de personnes, dont les femmes, je le répète, mais aussi certaines jeunes qui ont de la difficulté à entrer dans la vie active, avant 25 ou voire 30 ans, eh bien, on va retrouver cette accumulation de points plus faible que ce qu'ils pourraient espérer au moment du départ à la retraite. S'ils voulaient partir, mettons, à 62 ans, il sera incité à continuer à rester en activité. Mais justement, on sait que l'espérance de vie, on n'est pas tout à fait sûr qu'elle continue d'augmenter éternellement. On est même presque sûr du contraire. En tout cas, ce qu'on sait, l'INSEE nous l'a répété encore cette année, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a tendance plutôt à diminuer, ou en tout cas ne pas augmenter aussi fortement que l'espérance de vie tout court. Donc ça veut dire que si vous obligez indirectement, bien sûr, chacun sera libre, mais si vous obligez indirectement les salariés les plus précaires, les salariés qui ont effectué les travaux les plus pénibles et qui ont eu les plus faibles salaires, à travailler le plus longtemps possible pour accumuler un nombre de points suffisant, eh bien, je pense que on ne va pas construire un système plus équitable, plus juste et surtout plus simple, hein, parce que la simplicité d'un système par points, à partir du moment où vous êtes dans un système qu'on appelle la cotisation définie, mais dont les prestations ne sont jamais connues à l'avance, eh bien, pour faire de la lisibilité, de la simplicité, je crois qu'on peut faire mieux. Donc c'est ça le problème de l'âge dont à propos duquel vous me posiez la question. C'est que l'âge officiel peut ne pas bouger, faisons crédit au président Macron sur ce point, mais ceux qui auront eu les parcours les plus pénibles, les plus précaires, eh bien, seront incités à travailler le plus tard possible. Et donc, c'est ça. Au-delà de cet aspect un peu technique des choses, je crois qu'il y a un aspect démocratique fondamental. Je crois que l'âge de la retraite, la durée de cotisation, font partie de la construction progressive au sein de la société d'un sens du travail, des finalités de ce travail, du partage entre vie active et vie de repos, vie de loisirs, vie avec la famille, le partage du temps de vie, qu'on ne peut pas séparer du partage des richesses produites. Et c'est l'ensemble de ces questions-là qui sont des questions de société fondamentales qui sont évacuées du débat public et on n'aura plus qu'une discussion sur la valeur du point de service lorsqu'on partira à la retraite.
Alors on essaie justement, nous, ce soir, notamment, d'alimenter ce débat public pour rester sur cette question de l'âge de départ à la retraite. Antoine Bozio, c'est vrai quand même ce que dit Jean-Marie Arribé, c'est-à-dire avec un système par points où plus on accumule, plus on aura une bonne retraite. Il y a une forte incitation et on peut imaginer que cette incitation elle sera d'autant plus forte que l'on a eu des salaires relativement modestes tout au long de sa carrière.
Donc, je ne suis pas du tout d'accord sur le diagnostic que fait Jean-Marie Arribet de dire que qu'on va prendre en compte toute la carrière, ça va être typiquement pénaliser les salaires modestes, les femmes. Au contraire, tous les travaux qu'on peut faire montrent que c'est exactement l'inverse, parce qu'on va en fait beaucoup mieux revaloriser les droits acquis en début de carrière, typiquement les carrières longues, des carrières modestes. On va beaucoup plus revaloriser les salaires qui sont faits au début de carrière, avant souvent des passages à temps partiel pour les femmes. Et le temps partiel qui est particulièrement pénalisé dans notre système actuel, dans la formule de calcul. Et en réalité, toutes les simulations qu'on peut faire sont au bénéfice de ces catégories. Par contre, là où je suis d'accord, c'est de dire que un système à points qui va dire « je vous garantis finalement l'équilibre de long terme de notre système » va faire évoluer les règles d'or d'évolution du point, si on essaye de les fixer, vont dépendre finalement du temps passé en retraite moyen. Et si l'espérance de vie progresse, génération après génération, le taux de remplacement à chaque âge va se déplacer. Il faudra donc, finalement, on aura le même montant de pension, mais probablement à chaque fois un peu plus tard en âge au fil des générations.
Mais c'est quand même assez machiavélique finalement, c'est-à-dire moi si je comprends bien la logique, c'est de se dire plutôt que finalement que de fixer un âge légal, enfin même si là a priori il va pas bouger, on imagine un mécanisme qui sera suffisamment incitatif pour que spontanément un maximum de gens et envie de travailler le plus longtemps possible, ce qui peut permettre justement de régler les questions d'équilibre budgétaire.
C'est pas tellement, enfin, machiavélique si vous pensez que le système actuel, avec sa décote et sa surcote, fait exactement la même chose. L'augmentation de la durée requise de cotisation font exactement la même chose. La question qui me semble plutôt, c'est est-ce que plutôt qu'inverser la situation. Le système par défaut actuel, on vous donne effectivement ce qu'a dit très justement Jean-Marie Haribet, c'est de dire c'est un système, le régime de base, à prestations définies. Voici les règles pour calculer votre pension de retraite. Mais pour les plus jeunes générations, on sait que ces règles-là ne seront pas celles qui seront valables lorsqu'on partira à la retraite, parce qu'on sait que si l'espérance de vie continue à augmenter, notre système ne sera pas viable, les projections du corps nous les rappellent régulièrement, et donc il y aura d'autres réformes qui seront faites. La question, dans une réforme structurelle telle qu'une réforme du système à points, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut vraiment nous garantir aujourd'hui, à toutes les générations, en termes de taux de remplacement à la retraite ? À quel âge ? Et après, c'est là où moi j'y vois quelque chose de fondamentalement démocratique, c'est qu'on peut très bien faire le choix, contrairement à ce que dit Jean-Marie Haribet, de dire on peut changer le taux de cotisation. Si on estime que finalement le taux de remplacement de notre système, la masse, les 14 points de PIB qu'on consacre à notre système sont insuffisantes par rapport à ce qu'on souhaite consacrer collectivement en retraite, augmentons-les. Faisons une décision de dire ah ben on n'a pas besoin de dépenser plus pour l'éducation, la santé, on voudrait consacrer plus pour les retraites.
Mais ce sera plus démocratique parce que plus transparent.
Parce qu'on sait exactement ce qu'on aura. Là aujourd'hui, il y a un petit peu un marché de dupes, c'est-à-dire on vous fait une promesse qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir. Du coup, une grande partie des plus jeunes générations ne croient pas du tout à cette promesse. Or, le système par répartition a besoin de la confiance de l'ensemble des générations dans sa soutenabilité de long terme. On paye aujourd'hui pour les retraités actuels. Mais on a la conviction profonde que nos enfants eux-mêmes payeront pour nous-mêmes et que le système ainsi perdurera de façon durable.
Oui, mais alors ce que j'ai lu sous la plume de Jean-Marie Haribet, et j'imagine que vous allez me le confirmer, c'est que vous considérez-vous qu'avec ce système par points, on va accréditer l'idée dans l'esprit des gens que ce qu'ils cotisent, c'est en gros de l'argent qu'ils mettent de côté sur un compte qui leur appartient à eux et qu'on leur reversera après ce qui contribuait quoi alors à atténuer l'aspect redistributif du système. Je vais vous le laisser l'expliquer, ce sera fait beaucoup mieux que moi.
Mais le système qui est projeté ne supprimera pas, au moins par la forme, le système que l'on appelle par répartition. Mais vous avez raison, il y a un gros risque que s'installe l'idée progressivement que chacun prépare sa retraite, chacun finance sa retraite, alors que c'est une bêtise monstrueuse. C'est-à-dire que personne ne finance jamais sa propre retraite. Ce sont toujours les actifs du moment qui, par le travail qu'ils fournissent et la valeur économique qu'ils créent, qui est ensuite répartie. Mais justement, en instillant l'idée que chacun finance sa propre retraite et que finalement le système par points pourrait être une forme d'épargne, une sorte d'épargne, ce qui est une illusion bien sûr, mais en laissant croire cela, on laisse la porte ouverte pour qu'on puisse développer des systèmes complémentaires par capitalisation. Et d'ailleurs, vous savez sans doute que le projet de loi Pacte que prépare Bruno Le Maire et qui va bientôt être discuté va renforcer les dispositifs qui vont alléger la fiscalité sur l'épargne et vont favoriser le développement d'une capitalisation qui n'a jamais eu un gros retentissement en France, même si on a des assurances vie qui en font office un petit peu. Mais le système dit par répartition constitue l'écrasante majorité de notre système de retraite. Donc il y a effectivement un risque. Or, ce risque-là, c'est une illusion, un mirage, mais il a quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'il évite de poser la question qui est en amont de ce que disait mon collègue il y a un instant. C'est que finalement, la question du niveau des retraites et de savoir si dans 50 ans, est-ce qu'on pourra payer les pensions aux inactifs du moment, elle renvoie à la question fondamentale de la répartition de la valeur ajoutée. Alors, sur plusieurs plans. D'abord entre capital et travail. Or, ça, bien sûr, personne n'en parle. La modification du partage de la valeur ajoutée au détriment du travail qui est intervenu au cours des 30 dernières années, personne n'en parle. Et une fois qu'on a posé le problème du partage entre capital et travail, il faut poser le problème du partage au sein de la masse salariale, entre actifs et inactifs. Et c'est justement l'avantage, malgré ces imperfections de notre système actuel, qui était de poser à chaque instant, chaque année ou tout périodiquement, le problème du partage de la masse salariale. Parce que les cotisations sociales qui financent les retraites, pour leur plus grande part, ces cotisations sociales sont la partie socialisée, mutualisé, collectivisé, n'ayons pas peur du mot, de la masse salariale, du salaire. Donc, toutes ces questions-là
sont irrémédiablement évacués avec un système qui se présente sous des allures techniques neutres, mais en fait qui comporte le danger fondamental et vient de pousser jusqu'au fond, finalement, le projet macronien. Alors, qui est de faire de la France une start-up, nation start-up.
Alors,
chacun construit son fil de carrière.
Sans aller jusque-là, Jean-Marie Arrivé.
Au-delà,
je suis désolé, je suis obligé de vous couper à chaque fois parce que j'ai l'impression que si je ne le fais pas, vous pouvez tout à fait faire l'émission et j'en doute pas d'ailleurs, hein, tout seul, mais je voudrais quand même faire répondre Antoine Bozio parce que c'est vrai que c'est aussi important. Alors là, peut-être on est plus sur les grands principes, mais l'idée que à ce système universel contribuerait à affaiblir le côté redistributif justement du système en faisant penser à chacun qu'il capitalise pour sa pomme quoi et pas pour ceux qui sont à la retraite au moment où il cotise.
Alors deux choses. La première conviction, c'est qu'en réalité, il sera plus redistributif au sens où il va réduire plus fortement les inégalités de retraite. Ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est de savoir dans quelle mesure le caractère plus clairement et plus transparent en termes sur la partie contributive de notre système, est-ce que du coup ça amoindrit finalement le degré de solidarité intergénérationnelle? Moi, j'y vois au contraire un moyen de garantir finalement le lien de confiance, le contrat social qui est sous-jacent au système par répartition. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, en exprimant les règles de façon très très claire, en génération, sur comment ces règles doivent évoluer au vu du choc démographique qui est l'augmentation de l'espérance de vie, vous faites finalement un pacte social renforcé pour dire le système par répartition va continuer, les jeunes générations vont continuer à le financer, ils ont l'assurance qu'ils auront des droits qui seront payés. Le risque, à mon sens, du système par répartition, c'est si une partie de notre jeunesse et des jeunes actifs commence à dire « mais moi j'aurai rien, je paye aujourd'hui, mais ces grosses cotisations, elles iront pour ceux qui sont aujourd'hui en retraite, et puis finalement j'aurai intérêt, moi, à dire « j'ai besoin d'un système par capitalisation d'un système privé où moi, finalement, on me donne des garanties. J'ai aucune garantie que j'aurai des retraites. Là, le système, on voit bien, il est en déficit, j'aurai rien. » Ça, c'est un discours qui, en réalité, mine foncièrement la confiance qu'on peut avoir dans le système à répartition. Et ce que je trouve amusant, en écoutant Jean-Marie Arribet, c'était les critiques qu'on peut recevoir sur un système de type compte notionnel ou de type système à points à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Elles viennent souvent de libéraux qui disent « Oui, mais vous allez, avec ce système, défendre un système par répartition. » La vraie réforme, c'est la réforme chilienne, il faut privatiser, mettre des fonds de pension. Alors que là, vous allez en contraire faire comme ces socialistes suédois, conforter un système en répartition, conforter finalement le contrat social sous-jacent. Et ça, finalement, vous n'allez pas faire l'objectif finalement qui serait de développer la capitalisation.
Est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai bien compris votre logique Antoine Bozio, que de toute manière, pour que ça fonctionne, ce système universel de retraite par points, ça suppose qu'il y ait quand même la garantie qu'un niveau minimum de pension sera assuré pour que chacun, justement, considère qu'il a intérêt à s'inscrire dans un système de solidarité plutôt que d'aller chercher du côté de la capitalisation.
Je pense que d'une certaine façon, l'objectif premier, c'est de redonner une confiance très forte à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des générations, sur finalement la solidité de notre système de protection sociale pour les retraites et le fait que, quelle que soit notre génération, on puisse avoir des garanties solides sur le fait que on aura des garanties en termes de retraite. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour avoir des compléments, finalement, de retraite de façon privée. Et c'est ça qui va faire que la réforme puisse être une réussite ou pas. Si, d'une certaine façon, on arrive à transformer la situation des réformes à répétition qui donne le sentiment que le système n'est jamais à l'équilibre, qu'en réalité, de plus en plus souvent, on est obligé de réformer pour obtenir un équilibre qui n'est jamais là, eh bien, en fait, on mine la confiance qu'on peut avoir, et en particulier des plus jeunes dans notre système.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette discussion absolument passionnante. On n'est qu'au début de la réforme, hein, consultation publique. La consultation publique a démarré fin mai. Les partenaires sociaux vont très rapidement entrer dans la danse. Puis on verra bien ce que donnera le texte. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion, Antoine Bozio et Jean-Marie Arribé. J'en profite pour remercier également nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux qui assuraient le duplex ce soir. La discussion, vous pouvez la réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr. à la page du Grahamood. Vous pouvez également télécharger l'émission ou nous écrire directement pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Le Duo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Une émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son ce soir Clément Daté.